Il est 21h à Nouakchott et à Tombouctou, 22h à N'Djamena et à Abuja. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus, les menaces terroristes de Boko Haram inquiètent, le Tchad propose son aide au Cameroun et le chef de la diplomatie américaine monte au créneau.
Boko Haram est une des entités terroristes les plus malfaisantes et menaçantes actives aujourd'hui sur la planète.
Le secrétaire d'État américain John Kerry. En Mauritanie, trois militants anti-esclavagistes ont été condamnés à 2 ans de prison ferme. Publication de la liste électorale au Bénin qui avait suscité tant de polémiques. Retour sur la controverse autour des caricatures de Charlie Hebdo, liberté d'expression ou message islamophobe. Les points de vue divergent. Enfin, page culture, le film Timbuktu a été nominé pour les Oscars. Mais auparavant, voici le bulletin d'information présenté par Jean-Roger Bion. Bonsoir Jean-Roger.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Au Gabon, le parquet de Libreville a ouvert une enquête après l'attaque du domicile de l'opposant Jean Ping par une bande de jeunes lundi. Le procureur de la République compte poursuivre les deux parties. Le ministère public va d'une part poursuivre les jeunes pour dégradation de biens au domicile de Jean Ping et d'autre part, le procureur a accusé Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine, d'avoir fait infliger à ces jeunes des traitements dégradants et humiliants. Grande première à Brazzaville, l'opposition s'est rassemblée ce jeudi au Palais des Congrès pour mettre en place une démarche contre le changement de constitution. Même certaines formations politiques alliées du gouvernement de Brazzaville, le MCDDI, le RDD ou l'UP, ont rejoint les forces de l'opposition pour dire à leur partenaire, le PCT au pouvoir, de ne pas changer la constitution. Le point avec notre correspondant sur place, Ngoula Ngoussou.
C'est pour la première fois que l'opposition congolaise se retrouve unie pour faire cause commune. 25 partis ont signé ce matin l'engagement de lutter contre le changement de constitution. L'UPADS, le parti de l'ancien président Pascal Issouba, considéré comme opposition modérée, a rejoint ce cartel de partis. Sur la question de savoir si un tel regroupement peut durer longtemps, Gilda Muntsara est porte-parole du mouvement contre le changement de l'ordre constitutionnel.
Ben, vous avez là la preuve que nous sommes capables de nous unir, de mettre de côté toutes les divergences, que nous avons des points de convergence. Et là, nous pensons que nous devons écrire l'histoire de notre pays et cela nous invite à nous mettre ensemble. Et aujourd'hui, nous avons donné la preuve que nous pouvons nous asseoir autour d'une table pour le bien-être de notre pays, pour le bien-être des Congolais.
Nguela Ngoussou, Brazzaville. La voix de l'Amérique.
Et visite discrète du président nigérien ce jeudi à Maïdougouri, une première depuis près de 2 ans en pleine campagne électorale. Goodluck Jonathan s'est rendu dans le nord-est de son pays, épicentre des violences de Boko Haram. Inondation au Malawi, l'armée a été déployée pour aider 100 000 sinistrés. Pour l'heure, on compte 48 morts dans cette catastrophe, mais le bilan pourrait s'alourdir. Le Mozambique voisin déplore 16 victimes.
La voix de l'Amérique en direct de Washington.
La police belge a lancé aujourd'hui une opération antiterroriste qui a fait plusieurs victimes à Verviers dans l'est du pays. Selon les médias belges que cite l'AFP, une opération est en cours, ont indiqué plusieurs sources proches du gouvernement. Les musulmans modérés sont les principales victimes de l'islam radical, selon le président français François Hollande. Environ une semaine après les attaques terroristes qui ont fait 20 morts à Paris, dont 12 à l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, Monsieur Hollande a pris la parole dans un institut parisien cherchant à renforcer les liens entre la France et les cultures arabes. Et puis l'ONU a demandé aujourd'hui à Israël de reprendre immédiatement le versement de taxes collectées pour le compte de l'autorité palestinienne et suspendu en représailles à l'adhésion des Palestiniens à la Cour pénale internationale. Israël a gelé le versement de 106 millions d'euros de taxes collectées pour le compte du pouvoir palestinien peu avant l'adhésion du pays de la Palestine à la CPI. Cette adhésion va notamment leur permettre de mettre Israël en accusation devant cette juridiction compétente pour juger les crimes de guerre selon l'AFP. Et puis, pour finir, ici aux États-Unis, un jeune Américain de l'Ohio a été arrêté hier par les autorités fédérales. Il est accusé d'avoir comploté dans un attentat à la bombe contre le siège du Congrès à Washington ainsi que le meurtre d'employés à l'intérieur et autour du Capitole. Vous écoutez VOA Afrique. La suite, c'est bien Sahel Plus et c'est avec Claire Morin-Gibourg.
Merci beaucoup Jean-Roger.
We'll be right back.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur VOA Afrique. Nous ouvrons avec la menace Boko Haram. Signe de l'inquiétude régionale croissante face au groupe terroriste, le Tchad a proposé un soutien actif au Cameroun pour lutter contre le groupe nigérian. Djamena exhorte aussi la communauté internationale à agir. Nicolas Pinault.
Oui, dans un communiqué, le gouvernement tchadien exprime sa solidarité avec le Cameroun et explique être disposé à lui apporter un soutien actif dans la riposte courageuse et déterminée face aux actes criminels et terroristes de Boko Haram. Fin de citation. Ces déclarations interviennent après une rencontre à N'Djamena entre le président Idriss Déby et le ministre camerounais de la Défense, Edgar Alain Mbengo. Le Tchad et le Cameroun sont tous deux frontaliers de la partie nord-est du Nigeria que Boko Haram contrôle en partie. Les Tchadiens n'ont jamais été attaqués, mais rappellent que cette situation menace dangereusement la sécurité et la stabilité du Tchad, qui appelle tous les États de la CEAC à soutenir le gouvernement camerounais. Le gouvernement tchadien demande enfin à la communauté internationale des actions concrètes et conséquentes en faveur du Cameroun et de tous les États riverains du lac Tchad en vue d'éradiquer ce fléau que constitue Boko Haram.
À l'international, le chef de la diplomatie américaine a profité de sa visite en Bulgarie pour fustiger également la violence de Boko Haram. Selon John Kerry, le groupe commet des crimes contre l'humanité.
It's an enormously horrendous.
C'est le massacre atroce d'innocents. Boko Haram continue d'incarner une menace grave, non seulement pour le Nigeria et la région, mais pour l'ensemble de nos valeurs et pour la lutte contre le terrorisme. Les événements à Paris l'ont démontré, à des degrés différents, évidemment. Mais Boko Haram est une des entités terroristes les plus malfaisantes et menaçantes actives aujourd'hui sur la planète. Personne ne doit cependant douter de la détermination de la communauté internationale à combattre ce groupe, comme nous combattons l'État islamique, Al-Shabaab, Al-Nusra et tous ces groupes menaçant les valeurs qui guident le monde.
Values and mores which have guided most of the world for so long.
Le secrétaire d'État américain John Kerry. En Mauritanie, trois militants anti-esclavagistes, dont Biram Oulda Oulda Baïd, candidat malheureux à la présidentielle, ont été condamnés à 2 ans de prison ferme par un tribunal de Rosso dans le sud du pays. Maître Brahim Ould Ebeti, chef du collectif des avocats de la Défense.
Le verdict, c'est que Biram Oulda Oulda Baïd et Brahim Ould Bilal, deux dirigeants de l'organisation IRA, ainsi que Djibi Sow, le président de l'association TEL, ont été condamnés à 2 ans d'emprisonnement ferme. Tous les autres ont été relaxés. Le juge a retenu la désobéissance, le non-respect de la force publique. Le juge apparemment a écarté tout ce qui est relatif à l'association non autorisée, à l'attroupement non autorisé, ont été tout simplement exclus. Il s'agit d'un procès d'opinion par excellence, d'un véritable recul en matière de liberté individuelle et collective en Mauritanie. Nous avons déjà fait appel parce que nous pensons qu'il s'agit d'un jugement particulièrement arbitraire qui ne fiait pas à la Mauritanie parce que nous voulons de la Mauritanie que ce soit un pays démocratique, un pays où il y a des libertés, où le juge doit avoir comme première mission la garantie de liberté individuelle et collective. Mais aujourd'hui, c'est le recul de la période antérieure à la Constitution de 1991.
Maître Brahim Ould Ebeti, chef du collectif des avocats de la Défense. Au Bénin, fin de la polémique, nous vous en parlions hier. C'est fait, la fameuse liste électorale a enfin été publiée. La correspondance à Cotonou de Peggy Ludovic Dagba.
Lentement, mais sûrement, nous nous acheminons vers l'aboutissement du processus d'appurement, de correction, de mise à jour et d'actualisation du fichier électoral national et de l'établissement de la liste électorale permanente informatisée LEPI. Le COS LEPI annonce officiellement ce jour la disponibilité de la liste électorale informatisée provisoire
Par cette déclaration, le président du Conseil d'orientation et de supervision de l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI, vient de délivrer tout un peuple. Car la liste tant attendue, tant redoutée et tant quêtée pour assainir les joutes électorales au Bénin est enfin là. Provisoire, elle présente les caractéristiques que voici. Sakala Fia, président du COSLEPI.
La liste électorale informatisée provisoire est l'ensemble des citoyens âgés de 18 ans et plus au 31 décembre 2014 répartis dans les 7914 centres de vote. Ils sont au nombre de 4 435 803 pour le moment, en attendant la mise en conformité de la liste avec la loi.
Cette liste électorale provisoire devra être encore toilettée après 21 jours d'affichage afin de recevoir d'éventuelles réclamations. 8 jours sont prévus pour le dédoublonnage avant que la version définitive au sens de la loi ne soit livrée le 23 février 2015, a annoncé le président du COSLEPI, qui affirmera que cette opération coûtera encore 500 millions de francs CFA aux contribuables béninois. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour la Voix de l'Amérique.
Nous revenons sur les polémiques engendrées par les caricatures de Charlie Hebdo. Après les événements tragiques de la semaine dernière à Paris, les leaders politiques et le grand public ont commencé en Europe un grand débat sur ce qui est la liberté d'expression ou et ce qui est que discours de haine ou message islamophobe pour d'autres. L'islam est la seconde grande religion de France et la population musulmane ne cesse d'augmenter dans les autres pays européens. Timothée Donangmaille.
Mardi, il y a eu en Israël les obsèques des 4 juifs tués dans un supermarché de Paris, tandis que les autorités françaises faisaient leurs adieux aux policiers musulmans tués dans l'attaque sanglante contre le QG de Charlie Hebdo. Pendant ce temps, dans le nord-ouest du Pakistan, les fidèles d'un chef religieux radical ont organisé un service à la mémoire des deux frères qui avaient attaqué le magazine et ont été tués par la suite par la police française. Pire Mohamed Christi, le chef religieux musulman en question. Nous sommes ici pour exprimer notre reconnaissance et leur rendre hommage. Ils ont fait le travail pour toutes les communautés musulmanes. Ils ont fait le travail pour nous. Parce que ceux qui blasphèment contre le prophète sont les ennemis de tous les musulmans. Ils défient dans leur dignité tous les musulmans. Donc ces jeunes gens qui ont sacrifié leur vie et des péchés en enfer, ces blasphémateurs, nous les saluons tous pour leur martyr. À Paris, le premier ministre français, Manuel Valls, a souligné que le blasphème n'est pas illégal en France.
Le blasphème n'est pas dans notre droit, il ne le sera jamais. Il y a une différence fondamentale entre cette liberté et l'antisémitisme, le racisme, l'apologie du terrorisme, le négationnisme, qui sont des délits, qui sont des crimes, et que la justice doit sans doute punir avec encore plus de sévérité.
Monsieur Valls a exhorté le public à ne pas succomber aux divisions religieuses, ajoutant que le meilleur moyen de les éviter, c'est d'appuyer l'État séculier qu'est la France. Aux Pays-Bas, le maire de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, a averti ses frères et sœurs musulmans qu'ils devraient quitter le pays s'ils ne peuvent pas tolérer la liberté d'expression. Aux musulmans victimes de sales regards malgré leur bonne volonté, nous voulons vous garder au sein de cette communauté, nous voulons être ensemble dans cette société. Mais à ceux qui ne peuvent pas supporter quelques caricatures publiées dans un journal, eh bien je dois dire, casse-toi. Les caricaturistes à l'étranger ont condamné le meurtre de leurs collègues en France. Mais certains disent que leurs caricatures ont également causé du tort à quelques musulmans innocents qui sont maintenant confrontés à une islamophobie croissante en Europe.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur VOA Afrique, 102 FM à Bamako.
Soyez
Et c'est au son du film Timbuktu que nous ouvrons cette page culture. La Mauritanie va-t-elle remporter le premier Oscar de son histoire ? Timbuktu, le film du réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako, a été nominé pour l'Oscar du meilleur film étranger qui sera décerné le 22 février prochain. Nicolas Pinault a pu joindre le réalisateur qui est évidemment très ému. On écoute Abderrahmane Sissako.
On est submergé par quelque chose hein, qui est très très fort. C'est beaucoup d'émotions à la fois et un sentiment d'un travail qui a été fait par des hommes et des femmes extraordinaires et qui sont ainsi récompensés. C'est ce que je ressens. J'ai le sentiment que cette nomination, et c'est plus qu'un sentiment, cette nomination, elle ouvre la voie vers... une consécration qui est une consécration extraordinaire, sinon la plus importante pour le cinéma. Et donc, quand on apprend ça, étant un workshop, un sentiment fort de faire partie quand même, malgré tout, des mêmes mondes, voilà, c'est ce que je ressens.
C'est aussi une fierté, peut-être le premier Oscar de l'histoire de la Mauritanie ?
Oui, c'est un sentiment... même si le mot fierté, c'est un mot que j'utilise avec beaucoup de précautions, et bien évidemment que c'est quelque chose d'extrêmement important et on en est fier parce que un pays qui arrive comme ça à se hisser à ce niveau-là et en étant en quelque sorte, je dirais, le porte-parole d'un continent. Moi, la notion de continent est très, très importante dans cette nomination-là. J'ai vraiment, au-delà de la Mauritanie, tout de suite, c'est quand même l'Afrique. C'est fort pour moi et c'est cette Afrique-là qui commence à aller vers les Oscars.
Ce film, Timbuktu, c'est aussi un symbole en cette période d'obscurantisme et d'extrémisme ?
De tout temps. Hein, la période d'obscurantisme, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. L'obscurantisme est quelque chose qui côtoie... Hein. L'humanité de tout temps, elle prend des proportions à un certain moment, mais elle est là de tout temps. Donc je pense que justement ce film montre qu'il y a effectivement un obscurantisme, il y a une violence, il y a un acte, des actes barbares qui se passent dans le monde aujourd'hui, avec bien évidemment l'islam comme slogan, ce qui est totalement faux. C'est important que l'Afrique... soit aujourd'hui, et mon pays, la Mauritanie, le porte-parole de cet éclaircissement en fait, sur la chose.
Abderrahmane Sissako, réalisateur de Timbuktu, en lice pour l'Oscar du meilleur film étranger.
Bale mwa lo Timbuktu yene fasoye.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation Issia Kaba, à la technique Rob McLean, au micro Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Timbuktu Faso de Fatoumata Diawara et Amine Bouafa, l'un des morceaux du film Timbuktu.
Singi ya tugu emalibaye yangalu ya ine fazo
Rendez-vous demain 21h temps universel sur VOA Afrique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous.